RCF.
Nous poursuivons notre avancée vers Noël avec une série d'émissions Halte spirituelle consacrée au Liban. C'est d'ailleurs là-bas que RCF vous proposera de vivre les fêtes de la Nativité en direct de Beyrouth. Mais d'ici là, c'est avec vous, Monseigneur Charbel Malouf, que nous allons aujourd'hui nous intéresser pour cette troisième semaine du temps de l'Avent au thème de la conversion. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'aller plus loin, il faut nous présenter votre église. Vous êtes né au Liban, vous êtes en France depuis 2003. Vous êtes nommé Monseigneur de l'église Melkite et aujourd'hui responsable à l'Institut catholique de Paris pour la théologie patristique. C'est votre spécialité, hein, ce sont donc les pères de l'église comme Tertullien, Jean Chrysostome. Et c'est la même spécialité que vous pratiquez également à l'Institut chrétien d'Orient. Vous êtes rattaché au rite grec Melkite catholique qui dépend donc du patriarche d'Antioche. Alors, immédiatement, il faut préciser ce qu'on appelle l'église Melkite.
Eh bien, l'église Melkite, c'est une des églises catholiques orientales qui s'est unie à Rome au XVIIIe siècle en 1724. Cette église est appelée Melkite, le terme est un peu ancien. Ça vient du concile de Chalcédoine en 451. Tous les Chalcédoniens étaient appelés Melkites parce qu'ils ont suivi l'empereur. Al-Malik, Malko, en arabe et en syriac, qui veut dire l'empereur. Et donc les Chalcédoniens sont des Melkites. Et les non-Chalcédoniens, ce sont les Arméniens, les Coptes et les Syriaques, ce qu'on va appeler plus tard les églises orthodoxes anciennes qui ont refusé Chalcédoine, qui est un grand concile dans l'histoire de l'église. Mais à partir du XVIIIe siècle, le terme Melkite va désigner la branche de l'église d'Antioche du rite byzantin, donc de tradition orientale ou orthodoxe, qui s'est unie à Rome en 1724. Et du coup, on l'appelle l'église Melkite catholique, puisque c'est en union avec le pape, avec l'église de Rome, et grecque, de tradition grecque. Donc toutes les prières, les offices sont à l'origine en grec, qui ont été traduits en arabe et ultérieurement en français, en anglais, etc. Et donc c'est l'église d'Antioche unie à Rome du rite byzantin depuis 1724.
Ça veut dire que les tout premiers chrétiens ont suivi un empereur, ont suivi un pouvoir civil.
Exactement, c'était un peu la règle pour tous les conciles appelés œcuméniques, les sept premiers conciles, donc Nicée 1er jusqu'à Nicée 2 en 787. Une des constantes et des caractéristiques de ces conciles, c'est que ces conciles ont été convoqués par l'empereur byzantin et présidés par l'empereur, et non pas par le patriarche de Constantinople, ni de Rome, etc. Cela veut dire effectivement que c'est l'empereur qui est présidé, décrétait, et puis les autres, évidemment, signaient ce qu'on va appeler aussi les pères conciliaires, signent, évidemment, le texte et les formulations, les décisions dogmatiques, canoniques, disciplinaires, etc.
Quelle est la place du patriarche, justement, dans ce cadre-là?
Le patriarche, c'était en fait, à partir justement de Chalcédoine, 451, donc 5e siècle, toute l'Église, que ce soit en Orient ou en Occident, était gouvernée, si je puis dire, par 5 patriarcats, qui sont dans l'ordre Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Et donc à la tête de chaque patriarcat, même Rome était un patriarcat, il y avait un patriarche donc qui gouvernait toute l'Église, évidemment avec des évêques et d'autres, des prêtres et des fidèles, etc. Mais le patriarche, c'est le chef religieux de l'Église, donc qui est élu évidemment et qui prend ses responsabilités une fois qu'il est élu par le synode.
Alors, vous êtes aussi rattaché à l'ordre basilien chouérite au Liban. Et là aussi, il faut nous expliquer parce que c'est un peu un univers qu'on connaît moins.
Alors, l'ordre basilien, ce sont des ordres, des communautés de religieux et religieuses dans l'église Melkite, hein, à partir donc du XVIIIe siècle, qui y ont été fondées par des fondateurs, par des moines ou moniales, et qui ont suivi la spiritualité et les règles de Saint Basile le Grand, qui est un des grands pères de l'Église du IVe siècle. qui a organisé ce qu'on va appeler le monachisme oriental, basilien, sous forme de cénobitisme, ça veut dire d'une vie communautaire. Il n'y a plus des ermites qui vivent tout seuls, mais c'est justement dans une communauté où l'on partage la prière, les biens et tout. Et donc ces communautés ont été fondées au XVIIIe siècle et qui ont adapté et adopté la spiritualité de Saint Basile. C'est pour cela qu'on les appelle donc basiliens, chouarites, parce que c'est une des communautés qui a été fondée dans une région au Mont Liban qui s'appelle Chouer, d'où le terme en français chouérite, c'est par rapport à la région. Donc ce sont des religieux et religieuses qui suivent la spiritualité et les règles de Saint Basile. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce sont des religieux et religieuses qui ne sont pas des contemplatifs, mais qui sont dans le monde, mais en même temps qui vivent dans des monastères ou dans des communautés. Donc ils sont à la fois dans l'action et la contemplation.
C'est un ordre qui est présent aussi en France ?
Je suis présent en France, il n'y a pas une structure en France, nous sommes deux, moi je suis là et en même temps j'enseigne à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut des chrétiens d'Orient. Et donc, c'est à ce titre-là que j'exerce mon ministère ici à Paris.
Alors, une dernière question à votre propos, ça nous permet de faire connaissance. Puisque le thème, c'est celui de la conversion, vous avez vous-même vécu cette conversion en passant de l'Orient à l'Occident. Comment est-ce que vous êtes arrivé en France? Dans quelles conditions? Est-ce que vous étiez déjà engagé religieusement?
J'étais déjà engagé religieusement, j'étais déjà prêtre, ordonné prêtre en 2003, donc 2 mois après mon ordination. Mais j'appelle pas une conversion parce que je suis toujours melkite et donc dans l'église
catholique. Conversion géographique, on va dire.
Exactement. Et donc j'étais envoyé par la communauté pour continuer mes études à l'Institut catholique de Paris en patristique, donc la théologie des pères de l'église. Et j'ai soutenu une thèse. Et après, j'ai été à la fois curé de Saint-Julien-le-Pauvre pendant 9 ans et représentant du patriarche melkite en France et enseignant à l'Institut catholique de Paris.
Alors l'origine des chrétiens libanais, est-ce qu'il serait aussi question d'une conversion? On raconte que peut-être que les premiers chrétiens, du moins les maronites, avait abandonné le monothéisme pour le christianisme latin pendant les croisades. Est-ce que d'après vous, c'est déjà dans l'histoire des Libanais chrétiens un moment important, un moment clé justement ?
Alors le christianisme en Orient, on va dire, au Proche-Orient, parce que le Liban actuel, dans sa physionomie géographique, c'est très récent, 1920. Évidemment, le pays était déjà là et puis la culture était déjà là, mais on ne peut pas parler avant cette date
du Liban,
Liban
à proprement
actuel.
Parler, ouais.
Voilà. Donc, cette région qui s'appelait à l'époque la Grande Syrie était déjà christianisée depuis très longtemps. Et d'ailleurs, le premier patriarche ou évêque à cette époque, on n'appelait pas encore patriarche, c'est Ignace d'Antioche, qui est très connu, qui est mort à Rome comme martyr. Et cela à partir du deuxième siècle. Donc c'est une région qui a été, dès le début, christianisée, et si on veut utiliser le terme, convertie au christianisme. Évidemment, c'est une région qui a été marquée par une pluralité de religions, on peut dire du judaïsme, mais aussi du paganisme, de différentes formes de paganisme, qui se sont converties au fur et à mesure au christianisme. Et donc le Liban, et puis si je peux dire, tout le Proche-Orient a été converti au christianisme depuis les premiers siècles.
Au Liban, est-ce que ce temps de l'Avent, celui dans lequel nous sommes en ce moment, est-ce que ce temps de l'Avent résonne différemment dans l'Église orientale qu'ici, en Occident, en France en tout cas?
Alors le temps de l'Avent, comme vous le savez, c'est un temps de préparation pour célébrer en communauté, dans l'Église, une des grandes fêtes de la foi chrétienne, la nativité du Seigneur. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que au premier siècle, la fête de Noël n'existait pas. C'était une fête rattachée à la fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie, qui est considérée comme théophanie, la manifestation de Dieu, du Christ, et qui a été célébrée autour du 5 et 6 janvier. Et ce n'est qu'à partir du IVe siècle, et notamment cela a été pour la première fois à Rome, que la fête de Noël ou de la Nativité a été séparée de l'Épiphanie et donc placée le 25 décembre pour remplacer une fête païenne, celle du soleil. La première attestation en Orient vient de Jean Chrysostome, un des grands pères de l'Église du 4e, 5e siècle, dans une de ses homélies. Et donc, avant cette date, la fête de Noël était célébrée avec la fête de l'Épiphanie en janvier. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a des traditions orientales qui gardent cette fête, la fête de la Nativité, et qui la célèbrent en janvier. L'Église russe, l'Église copte, etc. Alors, la spécificité, évidemment, il y a des points communs. C'est la fête de l'incarnation, du Verbe, du Fils de Dieu, c'est le mystère de la foi qui est célébré, que ce soit en Orient ou en Occident, dans les différents patriarcats ou les différentes églises et les traditions. Alors, ce qui est intéressant aussi comme spécificité, c'est que dans notre Église, il y a le jeûne qui prépare ce temps. Et donc, un jeûne à l'époque, c'était comme le grand jeûne, le grand carême. Donc, 40 jours. Maintenant, c'est un peu moins. Mais justement, c'est un appel à tous les fidèles de se préparer dans l'esprit et dans le corps, de se préparer donc à accueillir Jésus dans notre monde, dans notre histoire, dans notre Église et dans notre cœur.
Alors on verra comment on se prépare et quelle est cette conversion à opérer tout au long de l'Avent dans la prochaine émission. Merci Monseigneur Mahalouf. Je rappelle que vous êtes archimandrite au sein de l'Église Melkite. Merci beaucoup.
Merci.